Voilà, je vais introduire le père François-Marie Luttel. C'est presque pas nécessaire parce que c'est un habitué de la maison. Il enseigne au Studium depuis presque 40 ans. Voilà, 40, le Studium a 40 ans. Il a aussi participé à de nombreux colloques et de sessions de théologie à Notre-Dame-de-Vie dans les années 80 et 90. Vous êtes professeur ordinaire au Theresianum à Rome, en dogmatique et en théologie spirituelle. Il y a de nombreuses publications sur la théologie des saints, notamment sur Thérèse l'Enfant Jésus, Gemma Galgani et Louis Crignon de Montfort. Et vous êtes depuis 2004 consultant de la Congrégation pour la cause des saints et depuis 2008 prélat secrétaire de l'Académie pontificale de théologie. C'est fini. Ah. Et vous avez eu en 2011 la grande joie de pouvoir prêcher la retraite au pape Benoît XVI, qui est d'ailleurs publié aux éditions du Studium, dans la collection du Studium, voilà le livre qui est là. Et donc aujourd'hui, vous allez nous parler du château intérieur comme synthèse théologique. Merci.
Merci de tout cœur et c'est pour moi une grande joie de participer à ce colloque et je pense avec une certaine émotion au colloque sur Thérèse d'Avila que nous avions organisé à Notre-Dame-de-Vie en 82, donc il y a 33 ans. Je venais juste d'apprendre ma nomination à Rome et donc nous avions eu à ce moment un colloque et bien sûr nous avons un colloque encore beaucoup plus beau, beaucoup plus important 33 ans plus tard. Donc nous voyons la fidélité du Seigneur. Donc vous avez tous une feuille qui va vous aider à suivre. Ah ben il faut alors suivre à deux ceux qui n'ont pas la feuille. Faites-en circuler parce que si vous n'avez pas la feuille sous les yeux, vous ne pourrez pas suivre. Hein. Donc c'est important. C'est important de partager à deux, voyez, mais que tout le monde puisse l'apercevoir. Au moins prenons en une pour deux et voilà. Parce que sinon l'exposé sera très difficile. Très difficile à suivre. Voilà, on y est à peu près. Voilà, alors je commence mon exposé donc avec cette introduction, vous voyez le titre, donc la théologie des saints comme Scientia Fidei et Scientia Amoris. Dans les premières lignes de son chef-d'œuvre, le château intérieur, Sainte Thérèse d'Avila exprime sa continuelle et fondamentale intention d'écrire sur l'oraison. En effet, Thérèse écrit toujours sur l'oraison, qui n'est pas une forme particulière de prière, de méditation, mais une manière nouvelle et géniale de comprendre la vie dans le Christ, dans toute sa profondeur et dans toutes ses plus vastes dimensions personnelles et communautaires. Selon sa plus grande fille et disciple, Thérèse de Lisieux, l'oraison est la source profonde de la science de tous les saints au long de l'histoire de l'Église. Elle le dit dans un texte simple et génial qui se trouve à la fin de l'histoire d'une âme. Je cite. « N'est-ce point dans l'oraison que les saints Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François, Dominique et tant d'autres illustres amis de Dieu ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies ?» Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul. Pour levier, l'oraison qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Ainsi, la petite Thérèse montre d'une manière synthétique le caractère profondément théologique et scientifique de l'oraison. C'est l'unique source de la théologie de tous les saints. C'est-à-dire de la même science divine de l'apôtre saint Paul et des autres auteurs bibliques, de saint Augustin et des pères de l'Église, de saint Thomas d'Aquin et des docteurs de l'université, de François et de Jean de la Croix et des autres mystiques. Donc vous voyez, cette liste de Thérèse nous donne comme le prisme de la théologie des saints, c'est-à-dire cette complémentarité historique des pères de l'Église, des grands docteurs, penseurs du Moyen-Âge et des mystiques. Et donc, l'oraison est source d'une science plus que géniale, et en même temps, elle est source du plus grand amour, l'oraison qui enflamme d'un feu d'amour. Avec Thérèse d'Avila et tous ses saints, la même Thérèse de Lisieux est une éminente représentante de cette science des saints. Ainsi, saint Jean-Paul II écrit qu'il a voulu la déclarer docteur de l'Église comme experte en la Scientia Amoris. Novo Millennio Ineunte, numéro 42. La même expression, Scientia Amoris, a été reprise par Benoît XVI le 19 mars 2011 dans son discours spontané à la fin de la retraite de Carême que j'ai eu la grâce de prêcher. En s'adressant à moi, Benoît XVI a prononcé ces paroles. Vous nous avez fait entrer dans la ronde de ces saints et vous nous avez montré que justement ces petits saints sont de grands saints. Vous nous avez montré que la scientia fidei, c'est-à-dire la science de la foi, et la scientia amoris, science de l'amour, vont ensemble et se complètent. Que la grande raison et le grand amour vont ensemble, plutôt que le grand amour voit davantage que la seule raison. Donc en parlant spontanément, sans lire un texte, Benoît XVI faisait référence à l'image peinte par le bienheureux Fra Angelico, la ronde des saints, qui était comme l'icône de cette retraite orientée vers la béatification de Jean-Paul II. Et donc elle se trouve, vous voyez, sur la couverture de ce livre qui contient le texte des méditations. Donc pour moi, ces quelques paroles de Benoît XVI, vous voyez, sont une véritable lumière, je dirais, parole du Seigneur à travers son vicaire, donc pour éclairer un chemin de recherche théologique pour aujourd'hui. Et alors si nous reprenons les noms des saints énumérés par Thérèse de Lisieux, il est clair que saint Thomas d'Aquin représente la scientia fidei, c'est-à-dire la grande raison, comme dit Benoît XVI, la grande raison illuminée par la foi dans ce rapport fides et ratio. Et donc c'est la théologie intellectuelle, académique, tandis que saint François d'Assise et saint Jean de la Croix représentent la scientia amoris, c'est-à-dire le grand amour, et c'est la théologie mystique, symbolique et pratique. Thérèse de Lisieux, avec Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne, qui sont les trois premières femmes docteurs de l'Église, ce sont les grandes maîtresses de cette scientia amoris, de cette science de l'amour. Donc avec ces quelques mots, le pape théologien Benoît XVI me donnait la plus belle confirmation du caractère scientifique de la théologie des saints, en insistant sur la complémentarité et l'inséparabilité de ces deux sciences, ou plutôt ces deux versants de la même science théologique de l'Église, scientia Fidei, scientia amoris, grande raison et grand amour, inséparables. Donc selon la méthode de la théologie des saints, le château intérieur de Thérèse d'Avila sera considéré maintenant comme une grande synthèse théologique en même temps que d'autres synthèses, d'autres saints docteurs de l'Église. Ainsi, notre exposé va se développer en deux parties. Vous avez donc le plan. Une première partie, la synthèse des mystères de Dieu et de l'homme dans le Christ, voie, vérité et vie. Et deuxième partie, l'oraison comme porte du château et âme de la vie intérieure des premières aux septièmes demeures. Donc commençons la première partie. Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne, les deux premières femmes docteurs de l'Église, docteurs de l'intériorité christocentrique et trinitaire. En 1970, après le Concile Vatican II, le bienheureux Paul VI a donné le titre de docteur de l'Église à sainte Thérèse d'Avila et à sainte Catherine de Sienne. Cette réunion des deux saintes a une profonde signification. Avec notre symbole de la ronde des saints, nous voyons maintenant Thérèse d'Avila qui donne une main à Catherine et l'autre à Thomas d'Aquin. En effet, Catherine et Thomas sont deux docteurs inséparables, parfaitement complémentaires, un homme et une femme, dans le contexte de l'Italie médiévale et dans la même famille dominicaine qui a comme devise Veritas. Dans l'expérience du Christ vérité, Thérèse d'Avila est évidemment plus proche de Catherine. Ce sont deux mystiques qui représentent la scientia amoris, tandis que Thomas représente la scientia fidei dans le style de l'université. Catherine et Thérèse n'avaient pas lu directement la somme théologique, mais à travers leurs amis théologiens dominicains, spécialement le bienheureux Raymond de Capoue pour Catherine et le père Domingo Bagnès pour Teresa, donc elles avaient assimilé et aussi vérifié et incarné les plus grands contenus de la théologie de saint Thomas. Ici, il faut rappeler donc cette expression de Benoît XVI, la scientia fidei et la scientia amoris vont ensemble et se complètent, la grande raison et le grand amour vont ensemble. La même vérité du mystère du Christ est exprimée par saint Thomas avec les concepts plus abstraits et par sainte Catherine avec les symboles plus concrets. Par exemple, la même vérité de notre salut opéré par la passion du Christ est exprimée par saint Thomas à travers les concepts de mérite, satisfaction, rédemption, sacrifice, efficience, et par sainte Catherine à travers le symbole du sang. Thérèse d'Avila privilégie aussi, et ça nous a été rappelé hier, elle privilégie la théologie symbolique. La comparaison entre Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne est très intéressante et féconde. Les deux premières femmes docteurs de l'Église sont par excellence docteurs de l'intériorité chrétienne comme intériorité christocentrique et trinitaire. Il n'y a pas de doute que la femme a plus que l'homme le sens de l'intériorité dans la dimension sponsale comme dans la dimension maternelle. C'est un des grands privilèges de la féminité que les saintes font resplendir avec la Vierge Marie. Dans la sainteté de l'Église, la composante mystique est représentée plus par les femmes que par les hommes. Catherine et Thérèse ont vécu au maximum la parole de Jésus « Demeurez en moi et moi en vous », mais avec des accents différents et complémentaires. Tandis que Catherine a montré par-dessus tout le premier aspect « Nous en lui », Thérèse a mis davantage en lumière le second, lui en nous. Cette intériorité réciproque dans la communion avec Jésus, dans l'amour, que saint Thomas appelle mutua inesio amantium, est inséparablement corporelle et spirituelle. Ainsi, Catherine illustre spécialement la parole de Jésus regardant qui concerne l'Eucharistie, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Tandis que Thérèse illustre davantage la parole de Jésus concernant sa demeure spirituelle en nous, une parole qui a été rappelée souvent dans les précédentes conférences. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Mais Catherine met l'accent sur notre présence en lui dans le temple de son corps. Tandis que Thérèse met l'accent sur sa présence en nous dans le château intérieur de notre âme. Thérèse est la grande théologienne de l'âme, tandis que Catherine est la grande théologienne du corps. Et toutes les deux utilisent d'une manière merveilleuse la théologie symbolique en relation avec Jésus, le Verbe incarné, qui, selon la belle expression de sainte Edith Stein, est le symbole primordial. Ainsi, tandis que Catherine explore les trois principaux lieux du corps de Jésus mort et ressuscité, Thérèse explore les sept demeures de notre âme, mais toujours avec cette clé de « nous en lui » et de « lui en nous ». Ces trois lieux du corps de Jésus, voie, vérité et vie, toujours contemplés par Catherine, sont les pieds, le côté et la bouche. Ce sont les trois échelons du corps de Jésus considérés comme chemin ou échelle ou pont qui conduit de la terre jusqu'au ciel. Et ce sont aussi, pour Catherine, les trois chapitres du même corps de Jésus, considérés comme vérité, c'est-à-dire comme livre. Pour Catherine de Sienne, comme pour Thérèse d'Avila, c'est le Christ qui est le livre vivant, le livre par excellence. En relation avec cette intériorité réciproque de lui en nous et de nous en lui, dans l'âme et dans le corps, mise en évidence par ces deux saintes femmes, il convient aussi de rappeler la configuration christocentrique de saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans son chef-d'œuvre, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. C'est la contemplation du mystère du Christ et de l'Église en Marie, dans son corps et dans son âme. En 2016, l'Église va célébrer le troisième centenaire de la mort de ce saint qui a eu une si grande influence sur Jean-Paul II et sur tant de saints modernes, lui aussi futur docteur de l'Église. Titre suivant, nous y travaillons. Le château intérieur de Thérèse est la somme théologique de saint Thomas d'Aquin comme synthèse architecturale. Pour approfondir ce grand thème de l'intériorité christocentrique et trinitaire, il faut considérer maintenant les deux saintes en dialogue avec saint Thomas, ou selon notre image de la ronde des saints, donnant la main à saint Thomas d'Aquin. Rappelons l'affirmation fondamentale de saint Paul. dans le Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le corps de Jésus est le temple nouveau, lieu de la présence totale et définitive de Dieu, un et trine. Mais nous aussi, nous sommes son temple, dans notre âme et dans notre corps, nous dit saint Paul. Cette intériorité christocentrique et trinitaire est inhabitation et incorporation dans une parfaite réciprocité. Par l'action de l'Esprit Saint, le Christ habite en nous, il s'incorpore en nous, comme il l'a fait en Marie, en son âme et en son corps, dans le mystère de l'incarnation, et réellement en nous, grâce à l'Eucharistie. Mais en même temps, il nous fait habiter en lui, il nous incorpore en lui, et c'est l'aspect le plus développé par Catherine et Thomas, avec des accents divers et complémentaires. Tous les deux insistent sur la profondeur de l'union et aussi de l'unité entre le Christ et son Église. Saint Thomas l'exprime dans le rapport entre la tête et les membres, qui, selon sa belle expression, forme quasi una persona mystica, comme une seule personne mystique. Mais Catherine dit la même vérité avec un accent plus fort encore sur l'intériorité de cette union entre le Christ et l'Église, contemplant toujours l'Église dans le côté ouvert de Jésus, dans la caverne de son côté, comme sa douce épouse, baignée dans son sang, qui la purifie toujours de tout péché. Elle connaît le secret de son cœur, c'est-à-dire le feu de l'amour qui est l'Esprit Saint. Cette contemplation de Catherine trouve son meilleur fondement biblique, donc dans le texte original grec de l'évangile de Jean, où la parole pleura, employée en chapitre 19 et 20, signifie en même temps la côte et le côté, évidemment en référence au récit symbolique de la création d'Ève à partir de la côte ou du côté d'Adam. La même intériorité christocentrique et trinitaire est exprimée d'une manière merveilleuse dans les grandes synthèses de Thomas et de Thérèse, la somme théologique et le château intérieur. Ce sont deux synthèses théologiques parmi les plus belles dans toute l'histoire de l'Église, avec les mêmes contenus essentiels, c'est-à-dire Dieu et l'homme dans le Christ Jésus, voie, vérité et vie, mais la somme est synthèse de la scientia fidei, et le château intérieur, synthèse de la scientia amoris. Dans les deux œuvres, la configuration christocentrique et trinitaire est essentiellement la même, celle qui vient du De Trinitate de saint Augustin, et qui a trouvé son expression résumée, son expression classique, dans le symbole quicumque, appelé symbole d'Athanase, et qui en réalité est totalement augustinien. Ce symbole est articulé en deux parties, selon les deux natures du Christ, la divinité et l'humanité. Ainsi, la première partie parle du Dieu un en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, sans utiliser le nom de Jésus. Et la seconde partie parle de Jésus-Christ, c'est-à-dire du même Fils comme homme, dans sa sainte humanité. Donc c'est un symbole bifocal qui contemple successivement la Trinité et la sainte humanité. Donc Thérèse d'Avila parle explicitement de ce symbole quicumque dans l'avant-dernier chapitre de son autobiographie, quand elle raconte une de ses premières visions trinitaires. Elle dit en disant le psaume quicumque, donc j'ai compris que les trois personnes sont un seul Dieu, etc. Et donc, on le récitait comme un psaume au moment, dans l'office de prime, qui n'existe plus maintenant. Alors ici, il faut rappeler que l'autre grand symbole de la foi, qui est le symbole de Nicée-Constantinople, donc notre credo liturgique que nous récitons tous les dimanches, lui n'est pas bifocal, mais unifocal. C'est-à-dire, il ne contemple pas successivement la Trinité et la Sainte Humanité, mais il contemple Jésus-Christ au centre de la Trinité, entre le Père et l'Esprit Saint. Le nom de Jésus signifie alors non pas d'abord la sainte humanité, mais la personne du Fils dans sa divinité et dans son humanité. Donc Thérèse de Lisieux parlera toujours de Jésus de cette manière, qui est aussi celle du cardinal de Bérulle, donc qui a influencé le Carmel féminin français, et notamment Thérèse, donc Bérulle, et l'école française, c'est-à-dire du christocentrisme comme théo-anthropocentrisme. Titre suivant, donc la Trinité et la sainte humanité du Christ. Dans la somme théologique, comme dans le château intérieur, nous trouvons exactement donc cette même bifocalité du symbole quicumque, la Trinité et la Sainte Humanité. Les deux œuvres sont des synthèses architecturales, le château, vous voyez, de synthèses architecturales qui expriment symboliquement un lieu, un espace intérieur, mais avec des accents complémentaires, donc de nous en lui et de lui en nous. Avant Catherine de Sienne, Thomas d'Aquin met l'accent sur le premier aspect, nous en lui. Nous le savons, la somme théologique, qui est son chef-d'œuvre, c'est une architecture complexe, exactement semblable aux cathédrales gothiques de son temps. Donc, ces cathédrales qui ont la forme de la croix latine, symbole du corps du Christ mort et ressuscité, temple nouveau, dans lequel tous sont invités à entrer, à être incorporés. La somme commence avec la contemplation de Dieu un et trine, le premier traité, la première partie, et elle finit avec la contemplation du Christ comme homme, troisième partie. Et entre ces deux grands traités est contemplé l'homme, un immense traité de l'homme, donc à la fin de la première partie, et donc la très longue, l'immense deuxième partie. Telle est l'intériorité christocentrique et trinitaire de la somme de saint Thomas, donc nous en lui, entre sa divinité et son humanité. Pour saint Thomas, l'objet principal de notre béatitude au ciel sera la vision de la Trinité et de la sainte humanité du Christ. Donc vous trouverez toutes les références à la somme. Alors, le château intérieur, lui, donc, exprime l'autre aspect de l'intériorité, lui en nous, dans notre âme. Et c'est le point de départ, donc le tout début du chapitre 1, des premières demeures. Donc, je n'ai pas le temps de lire le texte, vous le relirez facilement. Donc, Thérèse qui parle de cette vision ou cette intuition, donc, de notre âme, l'âme en état de grâce, l'âme juste, donc, comme ce palais merveilleux de cristal immense, donc, où le Seigneur habite. Ici, donc, l'expérience personnelle de Thérèse, comme vision mystique de l'âme spirituelle et immortelle, est comme la vérification de la réalité la plus profonde de l'anthropologie chrétienne, concernant l'âme, image et ressemblance de Dieu, comme sa demeure. Donc, l'âme du juste, l'âme dans la grâce de Dieu. Dans le chapitre second, toujours des premières demeures, Thérèse d'Avila parlera de l'âme privée de la grâce, c'est-à-dire en état de péché mortel, montrant sa grande misère, mais insistant sur la présence intime de Dieu comme créateur. Et il est intéressant de noter dans les cinquièmes demeures, chapitre 1, comment Thérèse va revenir sur ce point. Donc, un mauvais théologien de ces demi-savants dont elle parle lui avait dit que Dieu n'était en présent en nous que par sa grâce. Et alors, un bon théologien et lui avait montré que Dieu est toujours présent. Et alors, elle cite littéralement les expressions de saint Thomas d'Aquin. Donc, c'est dans la première partie de la somme, question 8. Donc, Dieu qui est présent en nous, donc présent par essence, présence, puissance et essence. Et donc, chez saint Thomas d'Aquin, c'est toute cette doctrine, cette contemplation de Dieu comme l'être ipsum esse subsistens. Donc, intéressant de voir, vous voyez, comment l'expérience mystique de Thérèse vérifie cette grande vérité que saint Thomas avait approfondie, disons, sur le plan plus spéculatif. À la fin du château intérieur, dans les septièmes demeures, la sainte parle de la plus profonde connaissance des mystères de la Trinité et de la sainte humanité qui resplendissent ensemble au centre de l'âme. Il s'agit maintenant de la plus haute connaissance mystique possible en cette vie, connaissance de ces mystères fondamentaux de notre foi. Donc, dans l'expérience de Thérèse, il s'agit de deux visions, de visions mystiques, successivement, vision intellectuelle de la Sainte Trinité, chapitre 1, et vision imaginaire de la Sainte Humanité. On en a déjà parlé, je n'ai pas le temps de citer les textes, mais on voit justement cette manière bifocale, voyez, au plus haut niveau, vision de la Sainte Trinité, vision de la Sainte Humanité. Alors, un fait qui a été noté hier par le père Anthony Joseph, vous voyez que contrairement à l'enseignement habituel de la scolastique, où on pense que les visions intellectuelles sont supérieures aux visions imaginaires, eh bien, dans le cas de l'humanité du Christ, c'est le contraire. C'est-à-dire parce que justement, les visions imaginaires qui comportent une image intérieure sont plus incarnées. Et alors, il y a un point très, très intéressant dont Thérèse parle à trois reprises dans la vie, dans les fondations et dans le château intérieur, quand elle parle encore de ce demi-savant qui lui avait dit qu'il fallait faire un geste très déplaisant, faire les cornes, pensant que cette vision imaginaire venait du démon. Et elle en a parlé à un bon théologien Et dans les fondations, elle dit que c'était le père Bagnès, qui était un des plus grands dominicains, un de ses grands amis, un des plus grands thomistes de l'époque. Le père Bagnès lui a dit « Jamais de la vie !» Même si cette image est peinte par le diable, aucune importance. Ce qui compte, ce n'est pas celui qui l'a peinte, c'est celui qui est représenté. Il appliquait à ses visions la théologie de l'image telle que saint Thomas l'avait formulée dans la Somme, où l'image du Christ doit être adorée d'une adoration de la tri, voyez, dans sa pure relativité. Je dis toujours que l'Église latine a une meilleure théologie de l'icône que les Églises orientales, voyez, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui. Voyez, pour l'Église latine, le peintre, ça peut être un saint, comme le bienheureux Frangelico, ou un criminel, comme Caravage. Eh bien, l'Église va utiliser, on peut prier devant une Vierge avec l'enfant de Caravage, comme dans celle de Frangelico. Si le peintre est un saint, c'est bien, vous voyez, mais Caravage aussi, vous voyez, un grand peintre chrétien, malgré ses misères. Voilà. Alors, remarque, vous voyez, donc le Christ, le titre, là, c'est une petite parenthèse, le Christ dans la Trinité, le christocentrisme trinitaire de Thérèse de Lisieux. Les grands mystères de la Trinité et de l'humanité du Christ, contemplés au début et à la fin de la Somme théologique, donc sont réunis dans les chapitres 1 et 2 des septièmes demeures. Ainsi, la science d'amour de Thérèse apparaît encore plus synthétique que la scientia fidei de saint Thomas, mais toujours avec ce schéma bifocal, donc du symbole quicumque, la Trinité et la Sainte Humanité. Alors nous avons noté déjà que Thérèse de Lisieux, elle, ne suit pas ce schéma, mais le schéma plus ancien, le schéma unifocal du symbole de Nicée-Constantinople qui contemple le Christ au centre de la Trinité entre le Père et l'Esprit-Saint. Et de cette manière, la petite Thérèse est encore plus synthétique que la grande Thérèse. En effet, la grâce que Thérèse de Lisieux reçoit le 9 juin 1895 dans son offrande à l'amour miséricordieux est essentiellement identique et au même niveau que celle des septièmes demeures de Thérèse d'Avila. Hein, donc c'est la même connaissance profonde dans la foi, l'espérance et l'amour, sans phénomène extraordinaire, du même mystère central de la Trinité et du Christ, mais donc selon ce schéma unifocal du Christ dans la Trinité entre le Père et l'Esprit-Saint. Et c'est cette structure et cette dynamique qui se manifestent dans l'acte d'offrande de Thérèse. Thérèse s'offre au Père par le Christ dans l'Esprit-Saint, feu de l'Holocauste, abandonnant son offrande à Marie, comme le faisait déjà saint Louis-Marie de Montfort. À la même époque, la sainte expérimente de recevoir dans son âme les flots, ou mieux encore, les océans de grâce du même Esprit, qui viennent toujours du Père, par son Fils incarné, donc à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. C'est la typique expérience des septièmes demeures comme expérience christocentrique et trinitaire, expérience des trois personnes divines et des deux natures du Fils de Dieu, la divinité et l'humanité. La face et le cœur sont les deux principaux symboles de la sainte humanité chez Thérèse de Lisieux. La divinité est expérimentée à travers les deux attributs de la miséricorde et de la justice. Donc je vais être plus synthétique, plus bref pour la deuxième partie. Donc l'oraison comme porte du château et âme de la vie intérieure. Donc le titre, vous voyez, les trois docteurs du Carmel, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix et Thérèse de Lisieux, dans la synthèse du vénérable Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Dans notre ronde des saints, nous voyons maintenant Sainte Thérèse d'Avila qui donne la main à Jean de la Croix et à Thérèse de Lisieux, comme leur mère dans la même famille du Carmel réformé. Tous les trois sont docteurs de l'Église universelle, docteurs de la vie intérieure comme chemin de sainteté pour tout le peuple de Dieu. Je crois que c'est très important, vous voyez, on a trois docteurs qui sont parfaitement inséparables, complémentaires, et on ne peut pas interpréter l'un sans les deux autres. Nous devons donc considérer la synthèse du château intérieur dans sa relation privilégiée avec les œuvres des deux autres docteurs du Carmel, Jean de la Croix et Thérèse de Lisieux. Et cela a été fait de façon merveilleuse par le vénérable Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, on l'a dit en voie de béatification, mais tout près de la béatification, puisque les médecins ont prouvé le miracle, donc d'ici un an, il sera sûrement béatifié. Donc ce sera une grande joie. Hein. Non, son grand livre, « Je veux voir Dieu », et la meilleure synthèse des trois docteurs du Carmel. Et c'est remarquable parce que pendant la vie du père Marie-Eugène, seul saint Jean de la Croix avait été déclaré docteur de l'Église. Mais d'une manière prophétique, le père Marie-Eugène donnait la même importance doctrinale à la grande Thérèse et à la petite Thérèse. Le père Marie-Eugène privilégie le château intérieur, pas seulement comme chef-d'œuvre et synthèse de la doctrine de Thérèse d'Avila, mais aussi comme l'œuvre mère du Carmel thérésien, c'est-à-dire une synthèse tellement ample qu'elle peut intégrer toute la doctrine de Jean de la Croix et de Thérèse de Lisieux. Cette grande synthèse est déjà visible au début de son livre, dans un lumineux schéma de la spiritualité thérésienne fait par lui-même. Pour moi, ce schéma, il est vraiment génial. Il revient toujours. Donc, vous l'avez. Donc, sur ce schéma, donc que vous gardez précieusement, eh bien, vous voyez, sur ce schéma, le chemin spirituel, chemin de sainteté, est considéré dans la succession des sept demeures, vous voyez à gauche, donc des premières ou sixièmes demeures, en voyant à toutes les étapes le rapport entre la grâce de Dieu et la liberté de l'âme, l'action de Dieu et l'activité de l'âme, vous voyez, toujours dans la continuellement en communion avec le Christ, vrai Dieu et vrai homme. On peut noter que ça correspond exactement aux trois parties de la somme théologique de saint Thomas, Dieu, l'homme, le Christ. Ça correspond aussi à la synthèse de sainte Catherine de Sienne, le Christ, pont ou échelle, voyez, depuis le début jusqu'à la fin. Et le père Marie-Eugène distingue dans ce chemin une première phase qui va des premières aux troisièmes demeures et une seconde phase qui va des quatrièmes aux septièmes demeures. La seconde phase est caractérisée par une nouvelle intensité de la grâce quand l'oraison devient contemplative et la vie spirituelle devient vie mystique. Selon l'expression de Thérèse d'Avila au début de son livre, l'oraison est la porte du château intérieur. Première demeure, chapitre 1. Mais c'est aussi le chemin continuel que nous ne devons jamais abandonner. Et c'est aussi, l'oraison est aussi la clé qui ouvrira la porte, les portes des demeures successives, depuis les premières jusqu'aux septièmes. En interprétant aujourd'hui les œuvres de Thérèse d'Avila à la lumière du Concile Vatican II, nous allons fêter le 50e anniversaire, le 8 décembre, de la fin du Concile, eh bien, le plus grand enseignement du Concile, c'est la vocation universelle à la sainteté, chapitre 5 de Lumen Gentium, en rapport avec le chapitre 8, Marie, dans le mystère du Christ et de l'Église. Marie qui représente la sainteté de l'Église parfaitement réalisée, donc qui illumine comme notre mère, notre chemin de sainteté. Donc nous avons la grande joie et la certitude d'être tous appelés à parcourir le chemin jusqu'au septième demeure. Le père Marie-Eugène en était déjà convaincu quand il écrivait son livre, donc bien avant le concile, mais quand il est mort après le concile en 67, et il en a reçu avec joie la confirmation. Quelques mots sur le titre suivant, le symbole biblique de l'époux et de l'épouse. Donc dans les septièmes demeures, Thérèse utilise le grand symbole biblique du mariage pour exprimer la pleine union avec le Seigneur. Pour Thérèse, comme pour Jean de la Croix, la sainteté consiste dans l'union transformante, vous voyez, exprimée symboliquement comme mariage spirituel. C'est exactement la même chose. Union transformante, c'est un concept. Mariage spirituel, c'est un symbole. Donc c'est un thème classique de la mystique médiévale, je pense spécialement à saint Bernard, mais un thème biblique, bien sûr, mais que nos trois docteurs du Carmel ont repris et approfondi d'une manière originale, toujours de ce point de vue de l'oraison. L'amour du Christ époux est aussi au centre de la doctrine de Thérèse de Lisieux. Donc les trois docteurs du Carmel sont par excellence les docteurs de la sponsalité christologique, et il me semble très important d'insister sur ce point aujourd'hui, car le soupçon radical de la crise de 68 a mis dans l'ombre la paternité, la maternité et la sponsalité. Et même dans le monde carmélitain, on voit parfois une certaine tendance à minimiser ce symbole de l'amour sponsal tellement présent chez nos saints, comme s'il n'était plus acceptable aujourd'hui. Je pense que c'est le contraire. Plus que jamais, nous en avons besoin. Jean-Paul II nous a invités à redécouvrir la beauté de l'amour sponsal dans toutes ses dimensions, que ce soit dans le mariage ou dans la vie consacrée, à partir de son centre qui est le Christ époux, source de toute sponsalité pour tous, hommes et femmes, dans tous les états de vie. Et Benoît XVI a rappelé comment l'amour sponsal intègre et transfigure l'éros, qui est proprement l'amour amoureux, l'amour extatique, unitif et jaloux, qui a pour objet principal la beauté de l'être aimé. Donc ce Dieu tellement amoureux de l'homme est au centre de l'expérience et d'enseignement de nos trois docteurs du Carmel. Et rappelons, il ne peut pas y avoir de maternité spirituelle ni de paternité spirituelle sans ce fondamental mariage spirituel de l'âme avec le Christ, déjà donné à tous ceux qui vivent dans la grâce, c'est-à-dire dans la charité. Alors ça, je l'ai développé récemment à Madrid dans une conférence. Je demande pardon à nos frères de langue espagnole qui aura des problèmes tantôt de traduction, mais je pourrais indiquer donc un long texte justement sur l'amour sponsal dans la vie consacrée, avec nos saints et quelques autres, et un certain nombre d'autres textes ont été traduits ici aussi en espagnol. Donc Thérèse d'Avila a écrit un commentaire sur le Cantique des Cantiques, on l'a rappelé, intitulé « Pensée sur l'amour de Dieu ». Donc tout ceci est repris, c'est bien sûr Saint Jean de la Croix qui a le plus développé ce thème dans toutes ses œuvres. Ainsi, donc, dans le château cantique spirituel comme dans le château intérieur, le mariage spirituel est le grand symbole de la pleine union avec Dieu en Jésus-Christ. Et c'est la sainteté comme perfection de la charité, comme union transformante dans l'amour. Et comme tous sont appelés à la sainteté, tous sont également appelés à ce mariage spirituel, hommes et femmes, personnes mariées et personnes consacrées. On pourrait parler du mariage pour tous, si ces expressions... Mais là, ce serait vrai. Ce serait vrai. Donc, pour Thérèse d'Avila, comme pour Jean de la Croix, tout le chemin spirituel dans le Christ chemin, eh bien, c'est la progressive réalisation de ce mariage spirituel entre le déjà et le pas encore. Toute âme est déjà épousée par le Christ dans le mystère de la rédemption. C'est vrai même pour les non-chrétiens, voyez. Il est mort pour tous. Il nous dit Jean de la Croix, sur l'arbre de la croix, le Fils de Dieu a épousé et racheté la nature humaine. Et par conséquent, chaque âme, tout être humain est une âme que Jésus a épousée sur la croix. Alors, dans la grâce du baptême, il nous est donné déjà, vous voyez, de vivre déjà ce mariage. Et là, ce fameux mariage spirituel des septième demeure, ce n'est rien d'autre que la pleine développement de la grâce du baptême. Et ça n'implique en soi aucune grâce extraordinaire. Bon, il me reste encore 5 minutes. Je vais résumer. Donc, vous voyez, l'oraison thérésienne, ce rapport d'amitié, Thérèse d'Lisieux va le définir comme le cœur à cœur entre l'époux et l'épouse. Et je le dis encore, c'est vrai absolument pour nous tous, dans tous les états de vie. Foi, espérance et charité, les trois vertus théologiques. Alors ça, c'est le grand apport de Saint Jean de la Croix, qui va préciser justement cette oraison thérésienne d'amitié, ce rapport personnel, comme n'étant rien d'autre, au fond, que la vie, la respiration de la foi, de l'espérance et de l'amour. Le grand mérite de Saint Jean de la Croix, et souvent, vous voyez, ces grands génies ont un art de simplifier au meilleur sens du mot. Un Jean de la Croix fonde toute la vie spirituelle, depuis le début jusqu'au sommet de la vie mystique, uniquement sur foi, espérance et charité. Donc Thomas d'Aquin disait « virtutes théologiques », et je préfère traduire littéralement « vertu théologique », c'est le même fondement. Vous voyez, qu'est-ce que Saint Thomas d'Aquin et Saint Jean de la Croix ont en commun? Deux grands saints qui sont docteurs de l'Église. Eh bien, l'intensité, ce que nous disons l'héroïcité de la foi, de l'espérance et de la charité. Alors simplement, dans les premières demeures, il y a un régime de basse tension, on pourrait dire, vous voyez, trois premières demeures, et avec les quatrièmes demeures, on passe à la haute tension, et avec les sixièmes demeures, la très haute tension. La très haute tension. Voilà. Et le don de soi... comme clé de la vie mystique, passage des troisième ou quatrième demeures. Alors ça, c'est un des grands apports du Père Marie-Eugène. Il faut lire donc la troisième partie de Je veux voir Dieu, qui est une des plus importantes, une des plus originales, donc contemplation et vie mystique, là encore pour tous, vous voyez. On est tous appelés à vivre ça. Et alors, de notre côté, à nous, l'élément fondamental, essentiel, indispensable, c'est le don total de soi-même. Et donc, il va s'appuyer sur Thérèse d'Avila, le danger de s'arrêter dans les troisièmes demeures, donc de rester comme le jeune homme riche, aimer mais pas trop, surtout pas à la folie, donner mais pas tout. Alors, la nécessité du don de soi, du don total de soi-même, pour accueillir le don de Dieu. Et vous voyez, dans son tableau, le Père Marie-Eugène caractérise les troisièmes demeures, triomphe de l'activité raisonnable, en une vie de piété bien organisée, etc., l'âme qui pratique les bonnes œuvres. Donc Thérèse de Lisieux le dit dans son offrande à l'amour miséricordieux, comme victime d'Holocauste, hein, holos, tout donner. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Totus tous, dit Jean-Paul II à la suite de Saint-Louis-Marie de Montfort, c'est indispensable pour accueillir le don de Dieu. Père Marie-Eugène disait, quand une âme est toute donnée, elle est contemplative. Ensuite, la pleine transformation dans le Christ mort et ressuscité, des cinquièmes aux septièmes demeures, on a déjà parlé de cette métamorphose du ver à soie, Isabelle de Andia va approfondir ce thème, donc vous voyez, cette immersion, mourir et ressusciter dans le Christ. Et dans le château intérieur, la partie la plus développée, c'est les sixièmes demeures, qui comprennent 11 chapitres, et le Père Marie-Eugène situe là la nuit de l'Esprit de Saint Jean de la Croix. Et il va, alors les chapitres, il y a 4 chapitres magnifiques du Père Marie-Eugène, 3, 4, 5 et 6, donc sur la nuit de l'Esprit, c'est très long, mais c'est de toute beauté, et il va insister sur la place de la Vierge Marie dans ce moment le plus crucifiant. Vous voyez, donc il y a un seuil à franchir, il n'en parle le mot sainteté que à partir des sixièmes demeures. Là, il faut encore dire oui, il faut franchir un seuil, de même qu'il fallait franchir le seuil du don total de soi-même. Et enfin, je vais terminer en synthétisant les deux derniers titres, la double présence de Jésus dans le château intérieur de l'âme et dans le château extérieur de la communauté, en nous et au milieu de nous, et Jésus, Marie, Joseph, la communauté de l'Église dans la Sainte Famille. Alors là, je me réfère à un père carme, dont le nom a été évoqué déjà hier, le père Jesús Castellano, un carme espagnol, évidemment amoureux de Thérèse d'Avila, mais qui était aussi très ami de Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement des Focolari, elle-même en voie de béatification, servante de Dieu. J'ai eu la grâce de travailler pour la béatification de la jeune Chiara Luce Badano, hein, vous savez, cette petite jeune italienne qui est la première bienheureuse du mouvement des Focolari. Les petits sont toujours les premiers dans le royaume des cieux, donc la petite Chiara est déjà bienheureuse, alors que pour la grande Chiara, il faudra encore du temps, bien sûr, tout un chemin. Mais alors, vous voyez, c'est un et là je vais quand même, je vais citer le texte, et ce sera le dernier. Chiara Lubich, donc, aimait beaucoup Thérèse d'Avila, et en dialogue avec ce père Carme, qui était professeur au Thérésianum, que nous avons bien connu, qui était un homme de Dieu, eh bien, ils avaient développé cette thématique château intérieur, château extérieur. Et donc, Chiara Lubich avait écrit sur le livre d'or du monastère de l'Incarnation, « Merci Thérèse pour tout ce que tu as fait pour nous durant notre histoire. Merci. Mais le plus beau merci, nous te le dirons au ciel. Continue de veiller sur nous tous, sur notre château extérieur que l'époux a suscité sur la terre, comme complément de ton château intérieur pour faire l'Église belle comme tu la désirais. Au revoir, Sainte Thérèse, en t'embrassant, Chiara. » Vous voyez ? Donc, c'était à la fin de sa vie, mais alors c'est très beau parce que, voilà. Alors, le château intérieur, on l'a dit, le texte fondamental, c'est Jean 14. Donc, si quelqu'un, même une personne, mon père l'aimera, nous ferons chez lui notre demeure. Le château extérieur, c'est Matthieu 18. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je crois que ça rejoint tout à fait ce qu'a dit le père François-Régis Villalem dans sa conférence. Vous voyez, il y a une double expérience mystique de la présence de Jésus dans l'âme et au milieu de ceux qui sont réunis en son nom. Et alors, de fait, dans le château intérieur, le chapitre 1 commence avec la présence du Seigneur dans l'âme et il se termine. Le chapitre 4 des septièmes demeures, tout dernier, tout à fait la finale, c'est Jésus au milieu des deux sœurs dans la maison de Béthanie. Hein, vous voyez, les deux sœurs qui sont réunies en son nom, Marthe et Marie, qui l'aiment, et Jésus au milieu. Mais le plus beau château extérieur de Thérèse d'Avila, eh bien, c'est la Sainte Famille. Alors ça, c'est pas dans le château intérieur, c'est dans la vie, quand elle raconte le monastère de la fondation de Saint-Joseph d'Avila. Hein, c'est Jésus qui lui demande que ce monastère soit consacré à Saint-Joseph. Sa promesse, donc, que dans cette nouvelle communauté, qui est un symbole pour toutes les familles, pour toute l'Église, pour toutes les communautés, Jésus sera au milieu et Marie et Joseph garderont les deux portes. Donc, l'immense amour de Thérèse pour Saint-Joseph, ce n'est pas de la dévotion, hein, c'est une dimension essentielle de sa théologie, de son ecclésiologie, on pourrait dire de son anthropologie aussi, quand elle dit de prendre Saint-Joseph comme maître d'oraison, vous voyez, parce que c'est l'homme qui a le plus aimé Jésus et Marie. Donc à la fois, vous voyez, dans cette intimité quotidienne, cette vie de travail aussi. Donc le modèle pour tous. Et donc elle nous propose de prendre Saint-Joseph comme maître d'oraison.
Un grand merci au Père Lethel. Je trouve cette image de Frangelico, se donner les mains, vraiment comme une image prophétique pour aujourd'hui. Parce que c'est comme un signe des temps que finalement tous les saints et nous tous dans l'Église qui avons des places différentes devons nous donner la main et marcher ensemble dans les temps difficiles que nous vivons aujourd'hui. Alors un grand merci pour les châteaux intérieurs, les châteaux extérieurs, pour les hommes et les femmes, pour toute cette complémentarité dans l'Église qui est un beau signe, je trouve, pour aujourd'hui. Merci beaucoup.